Nous allons être aux Hébreux chapitre 6, les premiers 8 versets ce soir. Mais ce que je veux faire avant, c'est que j'aimerais peut-être commencer avec un autre endroit. Et c'est important de comprendre pourquoi Jésus est passé au niveau d'humiliation, au niveau de sacrifice, au niveau de souffrance, pour pouvoir comprendre chapitre 6, les versets 1 à 8. C'est vrai qu'il y a deux sections, mais comme j'ai pas voulu traîner longtemps sur la première partie et puis faire une deuxième fois sur la deuxième partie, on va traiter ces versets ensemble. Mais vous savez que quand Jésus est mort sur la croix, souvent on parle de sa souffrance physique. Les films nous ont montré cela. On a vu comme il a été fouetté. Il a été cloué à la croix et ces scènes, quand on les regarde, c'est à peine supportable. Mais il y a un autre aspect qui était aussi important, c'est cet aspect d'humiliation de qui se passait sur la croix. Qu'une personne suspendue sur une croix était aussi d'habitude une personne qui était complètement nue, qui était totalement exposée aux éléments et aussi au public qui passait. Jésus est passé par toutes sortes d'humiliations. Vous vous souvenez quand il a été condamné par le Sanhédrin au Matthieu 26, il dit « Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé ?» Et ceci, c'est de prendre celui qui est sans défense et de se moquer de lui de cette façon. On voit cette inhumanité de certaines personnes envers d'autres. Et cela nous semble même plus difficile parce que ce sont des membres du Sanhédrin, ce sont des gens qui connaissent la loi, ce sont des gens qui devraient être formés par toute la compassion de Dieu. Et toute cette grâce que Dieu a donnée à son peuple, et on devrait voir cela dans les dirigeants, mais c'est pas le cas, c'est plutôt cette haine de Jésus qui est montrée de cette façon. Et puis, on arrive au passage, je crois, qui sont les plus cruels de toute la Bible, en tout cas, en parlant de Jésus. Matthieu 27:27 dit, « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. » Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau d'escarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui, et se moquant de lui, et en se disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent sur lui. Il prenait le roseau et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et là, nous voyons que dans ce passage, il y a tout ce qui est là pour humilier Jésus. Vous savez que c'est l'annonce ici de son couronnement. Jésus reçoit sa couronne. Mais eux, ils se moquent de ce vrai roi, celui qui va devenir par sa résurrection et par son ascension, celui qui règne au-dessus de toutes choses. Mais ils se moquent totalement de lui. Et ça, on pourrait comprendre parce qu'on dit, ce sont les Romains. Ils croient que peut-être, c'est un pauvre type, c'est un juif, et puis on peut faire comme cela. Mais après, quand Jésus est vraiment cloué à la croix, on voit ce côté qui est c'est noir, c'est la méchanceté. Matthieu 27:39 dit les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc des insultes, des moqueries. Bon, de qui? Des passants qui avaient entendu son enseignement. Des dirigeants religieux qui disent « Ah, tu es le roi, alors sauve-toi toi-même. Tu as dit que tu es le fils de Dieu, que le papa s'en occupe de son fils. » Et puis finalement, il y a même les deux autres brigands sur la croix, les deux autres, probablement c'était les meurtriers sur la croix qui se moquent de Jésus. Donc, cette humiliation qui est complète, qui est totale de Jésus, qui mène à sa mort, mais qui le traite pas comme humain. Je trouve remarquable que quelqu'un qui est mourant sur une croix, souffrant, dénudé, exposé, que les gens peuvent se moquer de cet individu. Il me semble que plutôt on aurait de la pitié pour lui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Jésus est allé à une humiliation suprême pour payer le prix du péché, pour devenir un sacrifice, pour vaincre le péché et puis finalement pour vaincre la mort. Les gens se moquent d'un homme à la fin de sa vie, un homme innocent et crucifié, le Fils de Dieu rejeté par le peuple de Dieu, le roi de l'univers, moqué par ses sujets. C'est ça que nous voyons. Et si nous comprenons cela, alors ça va nous aider à comprendre ce qui se passe dans aux Hébreux chapitre 6, les versets 1 à 8. Et donc, je vais lire ce passage, vous pouvez lire avec moi. Et puis, on reviendra à certaines choses, juste une petite étude de texte qui est là. Donc, Hébreux 6, les versets 1 à 8. « C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendant vers la perfection sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine de baptême, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, par leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. » Bon, pour se donner un peu de temps pour se remettre après cette description de Jésus sur la croix, j'aimerais qu'on regarde juste cette première partie qui y parle au verset 1, en laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ. Et notons bien, ici, c'est l'appel à aller en avant, c'est d'avancer, c'est de grandir dans la foi. Et notons bien que les enseignements cités, les six enseignements qui suivent, sont des enseignements élémentaires de la parole de Christ. Il y a des choses éthiques, il y a des choses pratiques qui vont être mentionnées, qui font partie de la parole de Christ. Laisser veut dire ne pas arrêter de suivre ces choses, mais c'est de construire sur cette fondation qui était posée. Parlons d'autre chose. Et juste pour vous dire, l'auteur veut écrire sur Jésus, le prêtre, souverain prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. C'est ça qu'il veut faire. Mais il sait que ces gens, ils ont écouté, mais ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à entendre ce que l'auteur veut leur dire. Ils avaient accepté certaines choses, mais ils ont toujours besoin de lait et ils ne peuvent pas manger de la viande. Et il dit, il faut tendre vers la perfection. La perfection ici, c'est pas l'idée de que j'aurai jamais de péché en moi, mais c'est de devenir adulte dans leur foi. C'est d'aller en avant, de ne pas être flottant, comme dit l'apôtre Paul, comme sont les enfants. Et notons bien, il va donner une petite liste de ce qu'il appelle les enseignements élémentaires de la parole de Christ. Vous avez vu qu'il y en a six qui sont là. Et je crois qu'il y a des six et c'est trois groupes de deux. Okay? Vous remarquez dans notre texte, quand il parle cela, il dit, première chose, repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Et ça, c'est le premier deux qui sont ensemble. Quand il parle de cette repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu, nous voyons que ceci est un appel que nous trouvons partout dans la Bible, que les gens doivent se repentir, ils doivent changer de chemin, ils doivent changer d'attitude et d'action, dont cela touche la totalité de l'être humain. Mais ceci, tout le monde doit être d'accord là-dessus. Il ne faut pas reposer ce fondement. Tout le monde doit savoir, quand on fait le mal, qu'on peut se repentir et on doit se repentir. De devoir convaincre l'Église de se repentir veut dire que nous avons une Église d'enfants. Okay? Mais juste dire, il faut repentir, ça devrait être suffisant. Tout le monde sait, quand nous faisons le mal, il faut changer de direction. Et il appelle les gens aussi à laisser ce fondement de la foi, c'est-à-dire qu'il faut croire pour être sauvé. Et cela, nous le savons aussi. Nous avons tous cru et nous nous sommes tous repentis de nos péchés. Et chaque jour, nous croyons et chaque jour, nous tournons le dos à notre péché pour vivre autrement. Nous prenons ces décisions jour après jour. C'est intéressant qu'il dit qu'il faut quitter cet enseignement élémentaire de la foi. Parce que Hébreux chapitre 11 est là. Et vous vous souvenez, ce sont qui? Ce sont les modèles, les héros de la foi, comme Abraham, comme Moïse, comme Déborah, comme les autres qui seront mentionnés. Et donc, ce n'est pas pour dire que on va plus parler de la foi. C'est-à-dire, il va arrêter de dire aux gens qu'il faut croire pour être sauvé. Ça, c'est une évidence. Il faut aller plus loin dans cette chose. Au chapitre 10, le verset 39, nous lisons « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui croient pour sauver leur âme. » Nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. Et c'est vrai qu'il doit encourager ces chrétiens à ne pas abandonner leur foi. Parce que s'ils abandonnent leur foi, ils vont se séparer de Christ. Chapitre 11, le verset 13, dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » Donc Abraham, Isaac, Jacob. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. » Et donc, il veut que nous ayons une foi, ou il voulait que les gens de l'époque aient une foi que, malgré leur souffrance, qu'ils gardent cette foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui disait, même si je ne reçois pas maintenant ce que je cherche, je sais que je l'aurai un jour. Et ceci est important parce que vous vous souvenez au chapitre 2, il dit, le Christ règne, mais on ne le voit pas toujours. Okay? Chapitre 2, le verset 8, il dit, le Christ règne, mais ce n'est pas quelque chose d'évident à chaque moment. Et donc, ils sont appelés à grandir dans leur foi. Après donc cela, après avoir parlé de repentance et de baptême, nous remarquons par la suite qu'il parle de doctrine de baptême et imposition des mains. Doctrine de baptême et imposition des mains. Alors, il y a certaines églises qui sont tellement mûres dans leur foi qu'ils ne parlent plus de baptême. Même, ils ne le pratiquent même pas. Okay. Et c'est pas cela qu'on voulait dire l'écrivain ici. Il voulait dire que on va pas passer notre temps à convaincre les gens. Jésus a déjà dit, n'est-ce pas, celui qui croira sera sauvé, celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Il a déjà envoyé ses apôtres dans le monde entier en disant enseignez-leur, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'écrivain va pas revenir à ces choses qui sont une évidence pour l'Église du premier siècle. Okay? Par contre, vous avez remarqué qu'il dit les baptêmes. Okay? Il parle de doctrine ou d'instruction sur les baptêmes. Et ça aurait été quelque chose de perplexe pour ces personnes-là, parce que dans le monde de l'époque, spécialement dans le monde judaïque, il y avait plein de ce qu'on appelle ablution. Okay? C'est-à-dire laver les mains de cette manière, laver la nourriture de cette manière. Il y avait ce qu'on appelle des mikvés. et les gens descendaient dans un type de baptistère, ils se plongeaient dedans, ils ressortaient, et les Juifs pieux faisaient cela plusieurs fois par jour pour être purifiés. Et donc, il dit, je ne vais pas entrer dans cette discussion parce que vous savez déjà ce qui est là et il faut rester attaché à cela. Et la deuxième chose, c'est l'imposition des mains, qui était souvent quelque chose qui se passait avec des baptêmes, spécialement au deuxième siècle. Imposition des mains, pas d'un prêtre pour donner l'Esprit de Dieu, mais comme consacration, comme prière, comme accueil dans la famille de Dieu. L'imposition des mains, nous le trouverons, les apôtres, par exemple, qui vont imposer les mains, Pierre le fait à Samarie, pour que les Samaritains reçoivent des manifestations miraculeuses de l'Esprit, et l'Esprit lui-même. Ça passe avec les disciples de Jean-Baptiste, qui sont baptisés aux Actes chapitre 19. Et parfois, c'est aussi donné pour des gens qui vont recevoir des tâches. Par exemple, si on décidait de donner notre trésorier ou nos fonds, à quelqu'un qui allait distribuer aux pauvres ou aux veuves de l'Église, on pourrait faire comme l'Église a fait aux Actes chapitre 6, de choisir des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, des hommes fidèles, et faire comme les apôtres et l'Église a fait, c'est d'imposer les mains sur ces personnes pour leur donner les tâches qui étaient devant eux à faire. Et donc, il dit, on va pas passer beaucoup de temps. Alors, vous savez que le toucher est très important. Je suis convaincu que l'un des moments le plus fort, c'est quand nous nous touchons, soit en donnant des câlins, donc on dit des hugs en anglais, n'est-ce pas, et on encourage en tenant la main de celui qui est à côté de nous pour prier avec, pour consoler quelqu'un. Je trouve que le toucher est important dans notre vie spirituelle. Mais cet écrivain dit, mais ceci est quelque chose qui est connu de tous, donc on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis après, la dernière chose qu'il mentionne là, c'est la résurrection des morts et le jugement éternel. La résurrection des morts et le jugement éternel. Et il dit, ce sont deux choses sur lesquelles c'est la base de notre foi. Nous nous souvenons que Paul a dû écrire à l'église vraiment enfantine de Corinthe pour leur rappeler qu'il y avait une vraie résurrection qui allait avoir lieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, un chapitre magnifique qui pose le fondement de la résurrection. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans l'Église, souvent, on parle de Dieu qui sauve nos âmes. Dieu qui sauve nos âmes. Si le mot « âme » veut dire la vie, sauve nos vies, on est tout à fait d'accord. Mais si c'est « il sauve seulement ce qui va dans l'éternité, dans notre esprit, mais ne parle pas de notre corps », nous n'avons pas compris la résurrection. La résurrection, comme elle est décrite dans les Écritures, et la résurrection est une transformation de ce corps que Dieu a créé pour avoir un corps qui dure pour l'éternité. La résurrection, on ne peut pas ressusciter un esprit. On ressuscite un corps qui est prêt pour l'éternité. Et l'écrivain dit, je ne veux pas entrer là-dedans de nouveau, on a déjà parlé de la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité, nous serons comme lui. Dit ces choses. Et puis, vous avez vu, il y a résurrection, il y a quoi après? Il y a le jugement. Et ces deux choses parlent de ce qui va se passer à la fin. Moi, je suis désolé, la fin du monde n'est pas très compliquée. Ce n'est pas un puzzle à mettre ensemble. Non, l'idée, c'est que Jésus reviendra un jour, il va ressusciter les morts, il va changer ceux qui sont encore en vie et il jugera. Les fidèles seront avec lui pour l'éternité, ou, on n'est pas sûr où cela sera, on parle du ciel, on parle de paradis, etc., mais on sera dans cette création avec lui, et puis il y aura un jugement, une séparation de Dieu. Ici, il parle d'un jugement éternel. Ce ne veut pas dire que Dieu, chaque jour, il va condamner ces personnes, mais que son jugement sera un jugement décisif. Ça sera la fin. Donc, nous avons tout à fait le droit de parler de comment sera la résurrection, comment sera le jugement et tout. Mais on n'a pas, il dit, ne passons pas notre temps à argumenter s'il y aura une résurrection. Ça, c'est un enseignement de base. Et deuxième chose, s'il y aura un jugement, il y en aura. Alors, comment cela va se manifester? Bien sûr, on peut le discuter, on peut rechercher dans les Écritures, etc., faire ces choses-là, mais on va pas passer notre temps juste à parler de cela. Ce sont six choses de base qui sont là. Je voulais juste partager cette partie avec vous. Oh, ça va, vous êtes en forme, plus ou moins? Oui. Ça va? Ok, bien. Alors, maintenant, nous entrons dans cette partie qui est un peu plus difficile, d'accord? Et c'est les versets 4 à 8 qui dit « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés. » Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. » Alors, regardons les mots qui sont utilisés. Est-ce que vous voyez la richesse du salut que nous avons ici? Okay. Notons bien, il dit qu'une fois éclairé, et c'est assez intéressant, juste un martyr, un chrétien du deuxième siècle, quand il parle des gens qui sont baptisés, il parle de, ils sont éclairés, ils sont illuminés à ce moment-là, qu'ils entrent dans la lumière à travers leur foi et leur baptême. Et notons aussi, on parle de leur, ici, une fois éclairés, ils parlent de leur conversion. Ce sont des gens qui ont vu le chemin du Seigneur, qui ont cru et qui ont obéi. Et il dit qu'il y a une multitude de choses qui se passent en eux. La première chose, c'est qu'il va parler des sens. Vous avez remarqué les sens? Il dit, la première chose, ils sont éclairés, c'est les yeux, n'est-ce pas? Ils voient clair. Ils voient ce que Dieu a fait pour eux, ils voient leur péché, ils voient leur avenir, ils sont éclairés. Et une partie de la vie chrétienne, c'est de voir clairement qui est Dieu, qui nous sommes et ce qu'il fait pour nous. La deuxième chose, et ça on n'entend pas très souvent, c'est de goûter. Okay? C'est la langue, il y a les yeux, et puis après il y a la langue. Et nous remarquons, il dit, on a goûté le don céleste, il dit, et on goûtait la bonne parole de Dieu. Quand vous lisez les psaumes, qu'est-ce que nous apprenons? Il dit que la parole de Dieu est comme du miel, okay, qui tombe sur nos lèvres. Ici, l'évangile, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous avons goûté ces choses. Et donc, continuellement, l'évangile envahit notre vie pour qu'on goûte, pour qu'on voit tout ce que Dieu fait pour nous. Et donc, on a goûté le don céleste. Je crois que le don céleste qui est là, c'est Jésus lui-même. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas simplement le salut. Je crois pas que ce soit l'Esprit, parce qu'il rementionne l'Esprit dans le passage qui suit, mais il dit qu'il a goûté le don céleste. Je crois que c'est Jésus lui-même. Et nous entrons donc dans cette communion avec lui. Il dit, nous sommes devenus participants à l'Esprit Saint. Et je trouve que ceci est important parce qu'il parle des yeux, il parle de la langue, mais être participant veut dire être proche d'eux, c'est d'être en contact. Et là, il parle de cette capacité de toucher qui est là. Et il dit par la suite, et qui sont tombés, il est impossible pour eux de les ramener à une nouvelle repentance. Alors, voici, on pourrait parler très très longtemps, mais je veux juste être clair. Les Écritures disent, sans discussion, que chacun qui s'éloigne de Dieu peut revenir à lui. C'est ça qu'ils disent les Écritures. Et on a un maintes passages. Il y a Jacques chapitre 5, qui dit, si vous ramenez un pécheur de son mauvais chemin, donc vous avez sauvé une âme. Dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, il parle de quelqu'un qui était dans l'immoralité, qui avait quitté la voie. Et après, il dit, il faut l'accepter parce qu'il est revenu. Il y a l'histoire du fils prodigue, même si la situation est totalement différente, mais qui parle quand même de quitter et de revenir. Et donc, Dieu continue à appeler les gens à la repentance. Mais il parle de deux choses. L'une chose, c'est un avertissement. L'avertissement, c'est que eux, ils sont tentés à ne plus marcher avec le Seigneur. de ne plus marcher avec Jésus. Ils sont tentés peut-être d'accepter une autre religion. Peut-être c'est le judaïsme. Peut-être c'est l'adoration de l'empereur. Des gens sont en train d'arracher leurs biens. Ils sont en train d'envahir leur maison et prendre tout ce qu'ils ont. Et donc, ils commencent à réfléchir, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et lui, il dit, oui, ça vaut la peine. Parce qu'une fois que vous quittez ceci, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous quittez le Christ, vous trouverez rien d'autre qui peut vous sauver. Donc ça, c'est la première. C'est un avertissement. Mais la deuxième chose, c'est un constat aussi qu'il fait. C'est un constat que si on quitte le Christ après avoir goûté tout ce qu'il nous donne, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a rien d'autre à nous offrir. Rien d'autre. Et puis, il veut qu'on réfléchisse. Parce que là, vous voyez la suite, ce qu'il dit au verset 6. « Car il crucifie de nouveau pour leur part le Fils de Dieu » et le déshonore publiquement. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il parle de la gravité de ce qu'ils font. Ils disent, c'est comme le Sanhédrin, c'est comme les passants, c'est comme les deux brigands, que s'ils quittent leur foi, et ils ne reviennent pas, évidemment, mais s'ils quittent cela, qu'est-ce qui se passe? Ils déshonorent le Christ, le crucifié. Ils sont en train de se moquer de lui. Et donc, il veut absolument qu'ils comprennent la compassion de Dieu, la grâce de Dieu, mais il veut qu'ils continuent dans le seul chemin qui mène à la vérité. Et donc, je relis cette partie, cet avertissement qu'il a donné, parce qu'il semble qu'il y a quelques-uns qui sont déjà partis. Vous vous souvenez, chapitre 10, il dit de ne pas quitter les assemblées comme quelques-uns ont déjà fait, mais réunissez-vous régulièrement avec eux. Donc, je relis verset 4. « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit-Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et de la puissance, des puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu » et le déshonore publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est reprouvée, près d'être maudite, et finit par être brûlée. Il finit avec, n'est-ce pas, deux types de terre. Ça nous fait penser à Jésus et son parabole de quatre terrains, n'est-ce pas? Et il parle d'un qui reçoit cette nouvelle et qui fleurit et qui devient vert et est béni par le Père. C'est ceci qu'il dit. Et puis, il parle d'un autre, les infidèles qui donnent de mauvaises herbes et finalement, parce qu'ils ne reviennent pas à lui, ils sont maudits et ils sont séchés et ils sont brûlés parce qu'on ne peut rien faire avec. Première chose, ayez soif de grandir. Ayez soif d'aller en avant. Ayez soif de chercher des choses plus conséquentes dans votre vie avec les autres qui font appel à Jésus. Faites grandir votre foi. Ne cherchez pas à rester où vous êtes, mais ayez un but de grandir en lui. Et la deuxième chose, il faut bien comprendre les besoins des choses basiques et d'avancer sans devoir les mettre en question constamment. Ce sont des choses qu'on accepte et puis on va plus loin. Et on encourage les autres à les accepter. Et la troisième chose, et c'est ça qu'il dit très clairement dans notre texte, c'est de renoncer à Jésus, à l'évangile de Dieu, mène à une destruction de tout ce que nous sommes. Il n'y a pas d'espoir si nous quittons définitivement Jésus. Et l'écrivain n'écrit pas cela avec joie dans son cœur, de dire, ah ouais, ceux qui sont quittés, ils sont loin. Il est en train de mettre en garde les chrétiens de ce lieu. Il y a un problème d'oubli, il y a un problème de reconnaissance, il y a la rébellion, une participation à cette crucifixion et humiliation de Christ. Et ils ont un choix. Un choix entre être une bonne terre, qui reçoit volontiers la bonne nouvelle et qui donne du fruit, une terre bénie par Dieu, ou d'être des infidèles qui donnent de mauvaises herbes et qui sont finalement maudits par Dieu. C'est un choix entre paradis et destruction, entre communion et séparation, entre bénédiction et malédiction, entre vie et mort. Et oui, rester attaché à Jésus est une question de vie et de mort. Mais nous qui tenons à cela, nous savons que notre avenir, avec l'avenir de ceux qui acceptent Jésus et marchent avec lui, leur avenir, notre avenir, c'est la vie. C'est une terre qui est verte, qui donne du fruit et qui est près de Dieu pour toujours.